Dans Studio 158 en direct, voici Karine Moinger et Dominique Patry-Boisvenu pour un rendez-vous éducatif.
C'est la psycho-éducatrice Dominique Patry-Boisvenu qui est avec nous ce matin. Bon début de journée.
Bon matin, Gaétan.
Il fait de plus en plus noir quand tu te présentes en studio.
C'est frappant, hein, les ouais. matins, surtout un matin de pluie. Là, on dirait que comme le ciel ouais. est couvert, là, c'est pire. Là.
Comment ça va?
Ça va bien.
Bon, on profite du plein air. Oui. Profite de l'air en masse les fins de semaine pour s'oxygéner.
Quand même, là, des fois, on dirait qu'il y a des timings là, où on est en congé, puis il fait pas beau, puis le congé ouais. d'ensuite, il fait encore pas beau.
Ouais.
Là, depuis quelques fins de semaine,
pire,
là,
hein?
ça va quand même bien.
En tout cas, souvent, c'est une journée sur deux minimalement. Là,
c'est ça.
Puis c'est important de s'oxygéner dans, dans ce qu'on vit. Souvent, ça a des répercussions. Quelquefois, on s'en rend même pas compte, mais il faut,
mais pour l'humeur,
faut changer
pour,
d'idée.
Pour le fait de, justement, comme tu nommes, là, s'oxygéner.
Ouais. Fermer la TV puis s'oxygéner.
C'est ça.
Ça fait beaucoup de bien.
C'est encore
une belle prescription,
de le faire.
Ça.
Oui, c'est
ah,
ça.
Oui, absolument.
C'est possible à l'année. Là. Moi, je me souviens de quelqu'un, là, un enseignant en éducation physique,
ouais.
là, qui disait il n'y a pas de mauvaise météo. Il y a juste un mauvais équipement.
Donc, c'est vrai, ça, tellement.
Pour être à l'extérieur, ouais. là, ouais. c'est sûr qu'il y a des journées extrêmes. Là, je pense
oui.
à l'hiver, le verglas et tout. Là. OK, peut-être que ces journées-là. Mais
ouais.
autrement que ça.
Mais c'est que quelques occasions par année.
C'est
là.
Ça. C'est exceptionnel, ces moments-là
ouais,
où on ne peut pas sortir à l'extérieur. Là.
On parle de TDAH ce matin.
Oui.
Évidemment, des lettres à la mode. Hein?
Assez, oui.
Mm-hmm.
Assez pour en faire un mois de sensibilisation.
Bon.
Donc, le
on
mois
le vit maintenant.
Oui, c'est ça. On voit différentes publications, là, surtout sur les réseaux sociaux, en lien avec ce mois de la sensibilisation-là.
Oui.
Il y a un humoriste connu, Philippe Laprise,
oui.
qui a partagé là, publiquement son propre diagnostic,
okay.
mais qui est un peu le porte-parole, là, dans le fond, de ce mois-là. Puis, sur sa page, là, il est assez actif là, pour partager des formations gratuites destinées
oui.
autant aux membres du personnel que les parents
okay.
Qui souhaitent aller chercher là, des petits trucs, des petits conseils en lien avec le TDAH, parce que oui, ça fait partie de nos vies, des gens qu'on côtoie, parfois même sans avoir un diagnostic, on peut avoir quelques symptômes. Tout
mm-hmm.
le monde en a un petit peu, là, dans le fond.
Ouais.
Puis on va le démystifier un petit peu ensemble
okay.
ce matin.
Il me semble que de cela à peine 25 ans, on n'entendait pas ça du tout.
Puis encore, j'ai quelques faits pour toi, mais
ah oui?
t'as raison, là, dans le fond, où il y a quand même on en entend plus parler. Il y a davantage de diagnostics. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Ça, je suis pas placée pour poser
ouais.
mon opinion là-dessus. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on a davantage de stratégies pour faire avec.
Okay.
Donc, tu sais, peut-être que, justement, il y a 25 ans, mais il y avait des enfants qui étaient inattentifs ou qui avaient énormément
ouais.
d'énergie.
Mais on diagnostiquait pas, c'était un énervé. Hein.
Oui, on utilisait d'autres qualificatifs, si je peux dire. On l'envoyait jouer dehors.
Ah oui, pas toujours gentil, non, ouais.
Oui, c'est ça. Puis en même temps, mais parce que le style de vie était différent. Les
ouais.
enfants passaient énormément de temps à l'extérieur.
Oui.
Les enfants marchaient
oui.
beaucoup pour se rendre à l'école et au retour de l'école. Et une fois rendus à la maison, bien, ils passaient la soirée dehors.
C'est vrai.
C'était peut-être même moins visible parce qu'il y
oui,
avait une
aussi,
dépense énergique.
L'énergie était dépensée au quotidien.
Naturellement, là,
okay.
dans le fond. Mais là, c'est moins le cas présentement.
Oui, OK.
Ben justement, le TDAH, j'ai un petit vrai ou faux, là. J'ai
ouais,
préparé
ouais, ouais,
quelques
okay.
petites questions. on a l'habitude de ça. la première mention du TDAH dans les écrits médicaux, dans les écrits
ouais.
scientifiques, ça remonte aux années 1950. Vrai ou faux?
Je vais te répondre vrai.
C'est faux.
Ouais, OK.
Ça remonte aux années 1775.
1775.
Sans nécessairement aborder le TDAH comme
ouais.
on le connaît aujourd'hui, c'est la première fois qu'un médecin allemand, dans les écrits, il y a des traces où il observe chez certains de ses patients des difficultés de concentration, de mémorisation,
okay.
au niveau de l'énergie, de l'hyperactivité ou de l'impulsivité. C'est les premières traces,
bon.
Là, dans le fond, qu'on relève
okay.
L'historique du TDAH. 25% de la population a un TDAH.
Ouais, j'ai envie de te dire vrai.
C'est faux.
C'est plus que ça, non?
C'est moins que ça.
Ah, okay.
On parle de 5 à 8 %. Puis, l'important là-dedans, c'est vraiment au niveau du diagnostic. Il y a possiblement des gens qui présentent des traits de TDAH. Il y a possiblement des gens aussi qui l'ont sans avoir
voilà.
fait la démarche
voilà.
reliée au diagnostic.
Okay. Okay.
Mais dans les statistiques, si je peux dire ça comme ça, on compte de 5 à 8 % de la population générale. Chez les enfants, chez les jeunes de
ouais.
moins de 18 ans, si on va vers cette strate-là de la population, on est plus de l'ordre du 20 %. Donc, il y a plus de... Et en même temps, on l'a dit tantôt, c'est plus populaire. Les enfants reçoivent souvent plus de diagnostics qu'un adulte, par exemple.
Vrai, ouais.
Donc, il y a plus de personnes là qui en ont un.
Okay.
L'hérédité est une cause dans 30 % des cas du TDAH. Donc, si j'ai un parent, un des deux ou les deux qui ont un TDAH, ça peut être responsable là, dans 30 % des cas qu'un enfant a aussi un TDAH.
C'est faux.
C'est vrai ou faux?
Ah oui? Okay.
Oui, bon. Vrai ou faux, dans le sens qu'on sait que c'est entre 30 et 95 des chances d'avoir un TDAH si son parent ou les deux parents ont aussi un TDAH. Donc, il y a une relation qui est très forte à ce niveau-là.
D'accord.
Du parent à l'enfant. Là.
OK.
2 à 3 fois plus de filles que de garçons ont un TDAH.
C'est faux.
C'est faux.
C'est les gars.
C'est les gars. Et c'est le même... T'es marrant, tu l'as vu venir, celle-là. c'est le même ratio. Donc,
ouais.
Il y a 2 à 3 fois plus de garçons
de gars que,
de filles qui ont un TDAH.
On l'a expliqué, ça?
Oui. D'une certaine façon, oui. De par la nature propre des garçons, là, au niveau de l'hypothèse. Plus de
on l'énergie. Serait donc prédisposé à ça.
Oui, une certaine, je veux dire, vulnérabilité.
Okay.
Puis ce qu'on sait, c'est que quand un garçon reçoit un diagnostic, c'est souvent la combinaison du TDAH. Donc, on parle autant d'inattention que d'hyperactivité, impulsivité. Okay. Alors que quand les filles reçoivent un diagnostic de TDAH, c'est beaucoup plus le volet inattention qui est
ça s'arrête souvent là, mettons.
Oui, c'est ça. C'est surtout à ce niveau-là qu'on observe là, les manifestations.
OK.
Finalement, le TDAH disparaît entre l'âge de 22 et 25 ans.
Faux.
C'est faux. C'est définitivement faux. Une fois qu'on reçoit le diagnostic, c'est un état. Dans le fond, le TDAH, là, c'est quelque chose avec lequel on vit. Par contre, chez les adultes, on le voit moins parce qu'avec l'âge, il y a plein de stratégies, il y a plein de...
Oui, on est mieux capable de le gérer.
Oui, c'est ça. On a appris à qu'est-ce qui nous aide. On le met en place.
Ouais.
On se donne des moyens.
On s'outille pour avancer. Non?
Oui, c'est ça. Puis en même temps, il y a aussi, je vais dire, je pense aux garçons, un niveau d'énergie à un moment donné qui plafonne dans le sens qu'on voit des très jeunes enfants qui ont énormément d'énergie. Puis avec les âges, on devient un peu plus calme naturellement. Là. Donc,
oui,
on le voit moins, mais ça ne disparaît pas, dans le fond, là, de la condition de la personne.
OK.
Quelques petites stratégies là, en rafale là, pour terminer là, la chronique, mais on va continuer la prochaine fois. Là,
parfait,
que je vais revenir
oui.
parce que je préférais en faire un deux parties.
Tout à fait. Il y a beaucoup d'informations.
Oui, c'est ça. Je ne dirais pas à l'infini, là, mais on peut en parler pendant très longtemps.
OK.
De façon générale, on l'a nommé l'énergie. C'est quelque chose qui fait partie du TDAH. Donc, comment est-ce que je peux dépenser mon énergie? Puis, je pense autant aux jeunes enfants qu'aux adolescents. Oui. Quand je faisais des tournées de classe, des adolescents qui me disaient, ben moi, pour gérer ma quantité d'énergie, ben je m'efforce de faire de l'activité physique, mais je vais bouger entre les pauses. Tu sais, je pense à la cité étudiante, là, où ils font des « turns », ce qui est populaire là, autour de l'école.
Ah oui,
donc,
okay.
se déplacer en rond, là, parce que ça fait un rond là, dans la cité étudiante. Mais eux-mêmes me rapportaient que de marcher pour venir à l'école, que de se faire débarquer un peu plus loin de l'école par son parent, par exemple, qui
c'est une façon de gérer ça.
C'est une façon là, de dépenser une certaine quantité d'énergie avant l'école, puis même au retour de l'école là, à la maison. Là. Envoyer les enfants en arrivant, quand ils débarquent de l'autobus, pendant 15-20 minutes à l'extérieur, c'est gagnant avant de passer à l'étape devoir et leçon.
Oui.
Donc, d'avoir un moment là, extérieur et en activité physique aussi, on pourrait dire, à défi. Il y a certaines activités physiques qui ont une dépense puis qui ont un impact plus grand. Par exemple, le saut à la corde à danser, dribbler un ballon là, de basketball ou de soccer, peu importe, là, boxer dans un oreiller ou si on est équipé là, avec un sac de boxe. Là, ça fait en sorte que pendant en peu de temps, on dépense plus d'énergie qu'une activité qui serait plus modérée, je dirais. Donc, pour moins de temps, on est plus efficace. Puis on arrive au même résultat.
Parfait.
Donc, cette activité physique-là, elle est non négligeable, peu importe l'âge. On pourrait aussi voir au niveau de la diminution de la stimulation. Tu sais, si j'ai besoin de me concentrer, là, que c'est un défi pour moi, c'est clair qu'avoir la télé, là, moi, je regarde dans ton studio, là, t'as une télévision qui est ouverte, il y a l'écran de l'ordinateur, il y a les boutons qui
clignotent.
Bon, il y a plein de stimulations qui font en sorte que ça demande une certaine concentration supplémentaire de rester concentré. Même chose à la maison. Si pendant mon temps de devoir et leçon, là, je laisse cette dernière réflexion-là aux adultes qui nous écoutent, si l'enfant, l'adolescent, pendant son temps de devoir, leçon, est dans une pièce...
Où il y a beaucoup de stimuli.
Beaucoup de stimuli de circulation. Les gens qui circulent, j'étais assis à la table de la cuisine. Le souper est en train de se faire. On est deux à faire nos devoirs. La télévision joue ou la radio.
Ça marche pas.
Ça peut être très difficile à ce moment-là
de se concentrer. C'est pas une bonne prédisposition.
Certaines personnes vont bien arriver à le faire avec, par exemple, une musique ambiante.
Ils
vont aimer se concentrer, puis ça leur permet d'être dans leur bulle. Puis c'est correct, ça. Il faut trouver ce qui fonctionne pour nous. Mais quand il y a trop de sources de stimulation, là, on passe à côté de...
Et on n'a pas les chances de son bord.
On est déçu parce qu'on se dit, j'ai passé 25, 35, une heure de temps assis à faire mes trucs, puis j'ai pas plus avancé. Ah. Comment ça se fait? Mais en même temps, ça s'explique souvent bien par ça.
Prédisposition.
Oui, c'est ça.
Excellent.
Donc, on va s'en reparler.
Tout à fait. Ben oui, en effet. Merci beaucoup, Dominique Patry-Boisvenu. Bien sûr, dans 15 jours.
Exact.
Salut, bye.
Bonne journée.
Les jeudis, 16h45, dans l'émission Terminus, on fait...